France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La France avant la France, 6e, 8e siècle.
Il est parti il y a longtemps, ce télégramme ?
6 mars 631. Reims aux mains de Charibert. Mais tu sais ce que ça veut dire ?
La flèche de la cathédrale a porté des arbalètes ennemies.
La route du champagne est coupée.
C'est étrange, pendant une bonne partie du XXe siècle, les Français ont joué avec les Mérovingiens comme avec des poupées de fantaisie, sans doute l'effet euphorisant de la litanie des longs. Alors en usage, Arégonde et Frédégonde, Théodechilde et Ostrochilde, Théodulphe et Agobar, ou une douce somnolence née de la contemplation des images de nos manuels. Souvenez-vous, ces souverains qui roulent lentement dans leurs chars à bœufs, rideaux tirés. À tout prendre, ces représentations paresseuses, c'est nous qui étions fainéants, pas les rois en question, avaient au moins l'avantage de l'innocence, parce que, auparavant, au XVIIIe et plus encore au XIXe siècle, l'époque à l'inverse avait suscité une imagerie, une littérature considérable, mais derrière lesquelles se dissimulaient les partis pris nationalistes, voire raciaux. On voulait chercher en Gaule mérovingienne ce qui aurait caractérisé, dès cette époque reculée, notre noblesse, notre monarchie, mieux, notre nation, et l'aurait distingué d'entre les nations, et surtout des Germains, autrement dit, des barbares. Fébrilité à l'époque romantique, puis républicaine, négligence une bonne partie du siècle dernier, au-delà de ces représentations usées, comment atteindre aujourd'hui ce passé que nous avons tort de qualifier d'obscur ? Geneviève Burer-Thierry, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors vous êtes la nouvelle présidente du conseil scientifique de l'université de Marne-la-Vallée. Il faut annoncer haut et fort la nouvelle. On vous a élevé sur un pavois.
Non, hélas.
On faisait ça à l'époque mérovingienne.
Absolument.
Vous êtes une spécialiste du pouvoir en action. Le pouvoir des rois, le pouvoir des évêques, le pouvoir des aristocrates. J'allais dire aussi le pouvoir des femmes.
Oui, bien sûr.
C'est important, hein, les femmes à l'époque.
C'est essentiel.
Mérovingienne, parce qu'à côté d'Agobar et de Théodulphe, on va convoquer les fantômes de Galsvint et de Frédégonde. Vous publiez avec Charles Mériot, vous avez publié l'année dernière avec Charles Mériot, le tome 1 d'une gigantesque entreprise qui s'appelle L'Histoire de France, chez Belin. 12 volumes déjà parus, dont le vôtre. Un encore à apparaître, c'est intellectuellement passionnant, c'est financièrement courageux, et une originalité parmi d'autres, à la fin de chaque volume, et c'est intéressant pour celui-ci, plus encore que pour d'autres, vous présentez l'historien dans son atelier. J'aimerais que vous nous racontiez avec quoi vous travaillez pour explorer l'époque mérovingienne avec des textes, mais ils sont un peu à périmètre constant, sont les mêmes qu'on connaît depuis longtemps.
Alors effectivement, le spécialiste du haut Moyen-Âge n'a pas l'espoir de trouver de nouvelles archives comme le font nos collègues des périodes plus récentes. Les textes de l'époque mérovingienne, on les connaît depuis très longtemps. C'est d'abord Grégoire de Tours, qui a pendant longtemps été considéré comme le père de l'histoire de France, même si on est maintenant beaucoup revenu sur cette conception.
Il écrit à la fin du VIe.
Il est mort en 594 et il écrit ce qu'on appelait communément l'histoire des Francs, qui racontait donc l'histoire du royaume franc depuis Clovis et jusqu'à la mort de Grégoire de Tours. Mais en réalité, cette histoire des Francs, elle n'est qu'un morceau de l'œuvre de Grégoire. Parce que le projet de Grégoire n'est pas du tout d'écrire l'histoire des Francs, titre qu'on lui a donné postérieurement, mais d'écrire ce qu'on appelle à l'époque l'histoire ecclésiastique, c'est-à-dire l'histoire de l'Église au sens de tous les chrétiens, l'histoire du salut, l'histoire de l'Église qui est en marche.
Donc c'est à regarder comme du pain béni, avec précaution. Et les cartulaires, les chartes
Alors les chartes originales, il n'y en a plus guère, des diplômes des rois mérovingiens, il y en a encore. Il y a actuellement disponible 18 documents authentiques de cette époque seulement, de cet ordre-là.
C'est sur papyrus,
sur papyrus, parchemin. Sur papyrus jusque dans les années 670, sur parchemin ensuite. Mais il y a beaucoup plus de documents si on prend en considération les copies qui ont été faites postérieurement, heureusement pour nous, parce que sinon on aurait quand même du mal à travailler.
Et puis, alors depuis pas mal d'années, depuis le développement de l'archéologie préventive en particulier, chaque fois qu'on met en branle un nouvel équipement, on est obligé de faire des fouilles, il y a les ressources au développement exponentiel de l'archéologie.
Didier Lefebvre labourait le champ paternel près de Saint-Rémy-en-Laux lorsque le soc de sa charrue heurta une large pierre. C'est ainsi qu'il y a quelques jours fut découvert un sarcophage. Le maire du village alerté, les fouilles officielles purent commencer. Elles aboutirent à la découverte de 4 sarcophages mérovingiens datant du VIe siècle.
Ces armes ont été découvertes dans un cimetière mérovingien à Magny-Cours-en-Comté, près de Saint-Paul-sur-Ternoise, par un couple de professeurs du lycée de Saint-Paul, M. et Mme Acca, aidés dans ces fouilles par certains de leurs élèves.
Ils ont traversé plus de 15 siècles sans être pillés. 8 sarcophages mérovingiens ont été mis au jour en plein centre-ville d'Angers lors des travaux de la future ligne du tramway. Les sépultures ont été ouvertes ce matin sur les lieux de leur découverte. L'affaire a suscité tellement de curiosité que l'opération était retransmise sur grand écran pour le public. Des badauds très émus par cette résurgence du passé.
Je suis surprise qu'on voie aussi bien le personnage, le squelette, il est pratiquement intact. C'est émouvant.
Ils ont su laisser une trace. Saura-t-on laisser une trace aussi indélébile que celle-là?
Ah, saura-t-on laisser une trace aussi indélébile? Et puis peut-être, chez nous, les traces ne seront pas très claires. Elles ne sont pas non plus claires dans l'archéologie funéraire mérovingienne. Quand vous voyez des rites chrétiens, vous vous dites ce sont des Romains. Quand vous voyez des rites barbares, vous dites ce sont des non-chrétiens.
Alors ça, c'est ce qu'on a cru pendant longtemps. C'est-à-dire que la première archéologie mérovingienne, c'est effectivement l'archéologie funéraire, et en particulier les fouilles des fameux cimetières à Rangers, qu'on considérait comme typiquement germaniques. Et donc, quand on trouvait des tombes, notamment avec du mobilier à l'intérieur, des armes, des bijoux, on considérait que c'était des tombes des guerriers germaniques, francs, venus avec Clovis, voilà, à partir des années 480. Et puis, on s'y est rendu compte... En fait, depuis assez longtemps, même s'il n'y a pas si longtemps qu'on le dit, que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'en réalité, les rites funéraires sont là, non pour les morts, mais pour les vivants, c'est-à-dire pour démontrer quelque chose. Démontrer en particulier la puissance de la famille qui enterre son défunt. Et dans ces rites, il y a tout un aspect de mode, disons, qui ne permet pas de trancher sur l'origine des gens qui sont enterrés là. Hein, on peut très bien avoir un sarcophage... de tradition antique dans lesquelles on trouve des armes et des bijoux germaniques sans pouvoir dire du tout quelle est l'origine du défunt enterré.
C'est-à-dire que Romains et barbares meurent et vivent aussi dans l'interpénétration. L'archéologie nous en dit long aussi sur les échanges économiques. Alors l'habitude, Geneviève Burer-Thierry, c'est d'expliquer qu'on est dans un monde cloisonné, que les échanges commerciaux ont beaucoup diminué en Méditerranée et peut-être même en mer du Nord aussi.
Les échanges commerciaux n'ont pas diminué brutalement. Le haut Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la Révolution. C'est-à-dire que les choses se passent très progressivement. Même si le dernier empereur romain a été déposé en 476, et les échanges en Méditerranée ont continué au moins jusqu'à la fin du VIe siècle. Et on trouve effectivement aussi, grâce à l'archéologie, tout un tas de produits d'importation orientale jusque dans le nord de la Gaule.
S'il y a bien une nouvelle, dites-vous, qui n'a eu aucun écho en Gaule mérovingienne, c'est la déposition du dernier empereur en 476. Les gens vivent encore dans des villes, ils vivent aussi de plus en plus dans des villae, c'est-à-dire dans des domaines. Dans les villes, les parcelles sont souvent rendues à l'agriculture, et dans les villae, il y a une pars urbana, des villages qui se constituent.
Oui, en réalité, l'aristocratie, disons gallo-romaine, s'est repliée à la campagne depuis pas mal de temps, et bien avant la déposition du pauvre Romulus Augustule. C'est-à-dire que les villes étant mal défendues, la proie des pillages et mal ravitaillées, l'aristocrate normal avait plutôt intérêt à résider dans son domaine, et donc à construire des bâtiments pour son propre confort, qui faisait des parties dites « urbanisées » avec beaucoup de guillemets de ces villae, très somptueuses, comme on en a retrouvé trouvé par exemple beaucoup en Aquitaine.
Vous nous racontez les découvertes de l'archéologie, on va vous raconter les découvertes de nos fouilles dans l'histoire de la télévision récente. Il y a 30 ans, dans les après-midi télévisés de Jacques Martin, une séquence était intitulée « Les voyageurs de l'histoire ». Voici deux acteurs bien connus qui chevauchent ensemble en Gaule mérovingienne.
Vous croyez que les voies tracées par nos anciens existaient encore ?
Hélas, il n'en reste presque plus rien, elles ne sont plus entretenues. Et les grandes villes aussi disparaissent par manque d'entretien et d'administration. Elles se sont vidées plus qu'à moitié.
Pourtant, votre roi est un grand roi qui règne sur un grand pays, qui est riche.
Effectivement, c'est un grand roi, on l'appelle Rex Francorum. Ah. Mais je te préviens qu'il tient absolument à ce qu'on appelle votre majesté et qu'on parle de lui à la troisième personne.
Je te remercie de me prévenir. Mais j'ai pourtant pas l'impression qu'il règne vraiment.
Bah, effectivement, il n'administre rien dans son état, mais il n'en a ni les moyens ni le désir.
Et qui commande alors ?
Les comtes. Les comtes perçoivent l'impôt et rendent la justice. Enfin, leur propre justice. Ah, oui. Ils ne s'encombrent pas de scrupules.
Enfin, quand je dis bien connus, on ne les a pas encore identifiés. C'est un concours qu'on ouvre auprès des auditeurs. C'est de l'archéologie télévisuelle. 1981, février. Il est dit que ce sont les comtes qui exercent le vrai pouvoir. Vous, vous expliquez que ce sont les évêques qui vont avoir des responsabilités grandissantes.
Les évêques ont en quelque sorte pris le pouvoir depuis la fin de l'Antiquité, en tout cas dans les villes. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, une bonne partie de l'aristocratie ayant déserté les cités, ce sont les évêques qui se sont retrouvés à la tête des cités, de l'administration de la cité. Aussi curieux que ça puisse paraître, c'est l'évêque qui restaure la muraille, qui lève une partie des impôts et qui défend militairement la ville, par exemple contre Attila.
Et puis il a le pouvoir de sacraliser les lieux, c'est-à-dire de choisir un patron par exemple, Irénée à Lyon, Bénigne à Dijon, Victor à Marseille, grand pouvoir de consécration.
Oui, l'évêque manipule le sacré, comme on le dit aujourd'hui. Il est capable de créer des nouveaux pôles de sacralité, puisque avec l'instauration, le développement du christianisme, il n'y a plus de sacré que ce qui est consacré. Et seul l'évêque, à cette époque-là, est capable de consacrer un lieu, un territoire, une église.
Alors, sauf Saint-Martin, qui a été sacralisé par Grégoire de Tours et qui relève d'une époque antérieure, vous dites les évêques et les saints d'ailleurs, ils appartiennent au même milieu social.
Ah oui, ils sont tous issus de l'aristocratie. Il n'y a à cette époque-là de sainteté qu'aristocratique. La plupart des évêques sont dans les premiers temps de la Gaule mérovingienne d'origine gallo-romaine. Assez rapidement, on verra des évêques qui sont aussi d'origine franque. On verra les aristocrates fonder des monastères sur leurs terres à partir du début du 7e siècle. Et donc, tout ce monde-là, bien entendu, se connaît, voire appartient au même groupe familial.
Complémentarité, cohabitation entre l'aristocratie, les évêques et les rois. 482, l'évêque de Reims, qui s'appelle Rémy, écrit à un jeune roi qui prend la tête d'un petit royaume franc au nord du pays. Il faut que vous nous expliquiez la division, la fin 5e siècle de la Gaule. Les francs, c'est au nord, mais ils vont jusqu'en Allemagne actuelle, jusqu'à Cologne et au-delà. Et qu'est-ce qu'il y a au sud de la Loire ?
Alors les Francs sont deux royaumes différents, hein. Les Francs qu'on appelait autrefois saliens, c'est-à-dire ceux de Clovis, et puis les Francs rhénans autour de Cologne et de Metz. Et puis plus au sud, alors il y a d'abord ce qu'on appelle le royaume de Siagrius, entre la Loire et la Somme, en gros, hein, qui est le dernier représentant de ce qu'était l'empereur romain, sauf qu'en 482, il n'y a plus d'empereur, comme on l'a dit, hein, mais enfin bon. En Aquitaine, ce sont les Visigoths qui sont au pouvoir, et dans la partie, disons, sud-est de la France, ce sont les Burgondes. Donc, différentes populations germaniques qui se sont installées comme alliées de Rome, comme fédérées de Rome, avec un pacte au 5e siècle.
Oui, c'est une sorte de général romain à la tête d'une armée de francs romanisés, peut-être Clovis, vous avez prononcé son nom, qui va unifier un domaine assez important, repoussant les Visigoths jusqu'au Languedoc et en Espagne, et commençant à poser des jalons dans le royaume Burgonde, là, autour de Lyon et de Genève. Mais Ce royaume de Clovis, on en garde le souvenir, à cause évidemment du baptême par Rémy. Alors on change de la chronologie, après l'atelier de l'historien, Histoire de France, volume numéro 1, mais bon sang de bois, où est la date de ce baptême ?
Ah, la date, là, elle est encore sujet de beaucoup de discussions entre les chercheurs. Elle s'étend en gros entre 496 au plus tôt, 507 au plus tard, et la discussion n'est pas tranchée.
Mais si avec la date, vous vous dites, la conversion de Clovis n'a pas pu se faire sans l'accord de l'aristocratie autour de Clovis.
Non, bien sûr, le roi ne peut pas se convertir au mépris des intérêts du propre groupe qui le soutient. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le royaume des Burgondes, où les chrétiens sont très nombreux, très puissants, mais où le roi Burgonde recule le moment de se convertir au catholicisme, parce qu'une bonne partie de l'aristocratie est assez attachée à l'arianisme originel des Burgondes.
C'est-à-dire à une autre conception du christianisme, grand débat sur la place de Jésus dans la Trinité. Alors, on est roi l'espace d'un moment, on arrive comme Clovis à fédérer des domaines autour de soi, mais la règle, c'est aussitôt après la disparition, le partage. Donc, quand Clovis meurt en 511, les quatre fils vont recevoir chacun un apanage d'une série de télévision, ça c'est vous qui nous l'avez révélé, Philippe Monnier, 1990. On entend d'ailleurs dans cette séquence l'écho de Grégoire de Tours.
À moi, c'est père, le royaume de Thierry, fils de Clovis, avec Reims pour siège.
Ouais. À moi, Caribert, le royaume de mon oncle Childebert, avec Paris pour siège.
Ouais. À moi, Chilpéric, le royaume de mon père Clotaire. Avec Soissons pour siège!
À moi, Gontran, le royaume de Clodomir, avec Orléans pour siège.
C'est ce qu'on appelle un partage à balances égales. Mais qu'est-ce qu'on partage? Des territoires, des villes? On entend le nom de quelques-unes significatives, des revenus?
Alors, ce qu'on partage, c'est avant tout des cités romaines, puisque en réalité, les cadres, les derniers cadres administratifs qui existent encore, c'est le cadre de la cité romaine, non pas le cadre de la province qui a disparu, mais le cadre des cités. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, évidemment romancé, hein, de l'histoire mérovingienne, c'est l'importance du siège, Sedes Regni, le lieu où le roi réside, même si évidemment il est itinérant. Hein. Mais il a quand même des lieux de pouvoir qui sont inscrits dans l'esprit. Des palais à partir duquel il va essayer de faire rayonner son pouvoir. Quant à l'égalité du partage, elle est extrêmement discutable, et en particulier le partage entre les fils de Clovis montre que c'est son fils aîné qui a récupéré la partie la plus importante, à la fois en termes symboliques et aussi en termes économiques.
Bon, on ne va pas raconter dans le menu comment les frères, les oncles, les neveux, les descendants se sont hachés, divisés. Il y a une guerre civile que vous racontez à partir de 570, nettement plus tard, mais qui va durer près d'un demi-siècle, avec des cycles ininterrompus de vengeance. Mais alors, vous ne cessez de dire, avec Charles Mériot, dans votre Histoire de France, Belin, tome 1, pourtant, même dans la division et la guerre civile, existe un regnum francorum qui demeure.
Oui, le royaume des Francs demeure et son unité est liée en réalité à l'attachement de ces Francs, c'est-à-dire de l'aristocratie, à la dynastie mérovingienne. Les Mérovingiens se sont beaucoup entretués, c'est vrai, mais en même temps, ils se sont entretués entre eux. J'entends par là qu'il n'y a pas d'usurpation jusqu'à ce que les Carolingiens les renversent. Mais enfin, ils ont quand même tenu un certain nombre de siècles.
Ça, c'est au milieu du 8e.
Ça, c'est 751. Entre 481 Clovis et 751 Pépin le Bref, il n'y a guère de tentative d'usurpation de la royauté. Ce qui fait l'unité du royaume des Francs, c'est l'unité de la dynastie, même quand le royaume est partagé entre plusieurs membres de cette dynastie.
Oui, parce qu'au 7e, rebelote, réunion de nouveau avec Dagobert, Saint-Éloi et Saint-Ouen. Enfin, vous dites le référendaire Rouen, parce qu'il s'occupait des affaires juridiques, et le monétaire Éloi, parce qu'il s'occupait de la monnaie. Et puis, après la mort de Dagobert, il y a encore un partage en 639, et il y a encore, autour de 675, je regarde la chronologie, une guerre civile, mais le royaume demeure.
Le royaume demeure, et il demeure parce que l'aristocratie se considère elle-même comme appartenant au royaume des Francs. On est, à partir du 7e siècle, on arrive à un moment où l'aristocratie se régionalise, Neustrie d'un côté, Austrasie de l'autre, hein, c'est-à-dire entre la Loire et la Seine d'un côté, entre la Seine et le Rhin de l'autre côté, et ces aristocraties ont en quelque sorte une identité propre qui est de plus en plus liée à ces royaumes qu'on peut dire régionaux, sous-royaumes. Mais l'ensemble est quand même le royaume des Francs.
Alors, on va changer de genre maintenant, si vous voulez bien. Après les rois, les reines, et après le genre sérieux, retour à la comédie. On a vu que la télé des années 70 aimait jouer avec les Mérovingiens. En écho au roi maudit de Druon, voici que Tchernia et Belmar offraient les maudits rois fainéants, flanqués de leurs épouses, avec deux comédiens bien connus.
Et Chilpéric, enfin libre, put épouser Frédégonde et s'établir sur son trône. Il y reçut la visite de son frère, le fameux Sigebert.
Oh, Bébert! Monsieur Bébert!
J'ai horreur de ça!
Monsieur Bébert! Ça va, Bébert?
Bonsoir, Riquet!
Dis-donc, ça fait une paye qu'on s'est pas vu!
Oui. Tu m'excuseras, je ne suis pas venu à ton mariage.
Ben oui, on a remarqué, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ma femme, Bruno.
Ah. Oui?
Ta défunte. C'était sa sœur.
Prenez note maintenant de ce dialogue parfaitement historique.
Regarde-moi un peu.
Oui.
On n'a jamais su de quoi elle était morte.
Oui, c'est vrai, on n'a pas su.
T'aurais pas une idée?
À un moment, elle a été saisie.
Elle a été saisie.
Et elle a manqué d'air.
Elle a manqué d'air.
Oui.
Tu manques pas d'air, toi, hein? Je sais tout.
Mais pourquoi tu dis ça, Bébert?
Je sais tout.
Et après que la cruelle Frédégonde eut fait assassiner Sigebert au cours d'un conseil, Chilpéric put reprendre sa place sur le trône.
Alors prenez note, Geneviève Lurer-Thierry, auteur avec Charles Mériot de La France avant la France, Histoire de France, tome 1 chez Belin, a identifié les deux comédiens principaux.
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.
Oui, c'est tout à fait ça. Mais vous voulez nous parler de Galsvin, de Frédégonde, d'Aragon, de Brunehaut. Ah, les reines, alors. C'est très important, le rôle dans la compétition pour le pouvoir.
C'est très important, mais en même temps, la reine ne tire son pouvoir que du fait qu'elle est l'épouse du roi. C'est-à-dire que s'il y a, on l'a dit tout à l'heure, un roi des Francs, Rex Francorum, il n'y a pas de reine des Francs. La reine, c'est la reine de son roi. On le dit par exemple d'une des épouses de Dagobert. Elle était la reine de Dagobert. Ce qui veut dire qu'elle ne tire son pouvoir que de sa proximité, et charnelle bien sûr, pour commencer, avec le roi. La reine, c'est celle qui partage la couche du roi. Et quand le roi n'en veut plus, eh bien, voyez...
Attendez, vous dites une des épouses, le mariage n'est pas un sacrement que les évêques, dont vous dites le pouvoir, contrôlent?
Ah non, le mariage n'est pas un sacrement avant le XIIe siècle. Et on se marie dans ce monde-là, et en particulier quand on est le roi mérovingien, on peut se permettre beaucoup d'écarts par rapport à la norme. C'est aussi une manière de montrer sa supériorité dans le royaume, de montrer qu'on est à part, en quelque sorte. Alors que l'aristocratie n'est pas, je dirais, ouvertement polygame, la royauté mérovingienne l'est couramment, et c'est particulièrement vrai de Dagobert, qui passe pourtant pour un bon roi, mais auquel les sources de l'époque reprochent notamment le grand nombre de concubines qu'il traînait avec lui.
Dans leur participation à la compétition pour le pouvoir, les reines disposent cependant d'une arme, le retrait. Elles peuvent faire le choix du monastère, et une fois qu'elles ont fait ce choix, inutile de faire le siège du couvent, comme l'a tenté, là on est avant l'époque de Dagobert, on est sous le roi Clotaire, le souverain qui assaille en vain Radegonde.
Je suis venu te reprendre, Radegonde. Je ne peux plus vivre sans toi.
Alors tu me prendras morte. Je ne te suivrai plus jamais, Clotaire.
Chienne, qui parle à Dieu comme s'il était vivant, et qui refuse de suivre son mari.
Tu n'es plus mon mari.
Je suis celui qui t'a prise.
Je l'ai expié. Tous les jours de ma vie, je me punis pour m'être laissé toucher par toi. Tu as tué mon père, ma mère. Tu as tué mon frère aussi. Tu m'as prise comme esclave. Tu m'as couché près de toi, c'est vrai, comme un animal.
Le plus bel animal qui ait jamais couru le long de mon corps.
Tais-toi, Clotaire!
Elle est prête.
Prête à quoi, monseigneur?
Je suis.
La reine Radegonde ne quittera jamais son monastère, monseigneur.
Qu'est-ce qu'elle fait maintenant?
Elle lave le parterre du cloître.
C'est une souillon, c'est ça? La reine des Francs est devenue une souillon.
C'est une sainte, monseigneur.
Vous entendez ça, vous autres? Une sainte! Votre roi était marié à une sainte et il l'ignorait. Hein?
Alors, c'est peut-être pas passé comme ça exactement. Philippe Monnier, le téléfilm que vous nous avez recommandé, inspire une Grégoire de Tours et un petit peu de Régine Desforges aussi. Raconte, je ne sais pas si elle devient une souillon, elle devient la chef, la baisse peut-être d'un monastère familial. Très important, les monastères familiaux pour la constitution du tissu aristocratique et monarchique.
Oui, c'est vrai dans l'aristocratie, mais c'est pas vrai dans la royauté. C'est-à-dire que Radegonde ne vient pas. D'abord, elle ne devient pas abbesse parce que justement, par souci d'humilité, elle laisse la charge d'abbesse à la sœur Agnès et elle lave le sol du cloître.
Ah vraiment ?
Ah vraiment ? Enfin, ah vraiment, tel que c'est raconté dans la vie de Radegonde, qui a évidemment pour but de montrer que c'est une sainte femme. Mais ce qui est intéressant dans cet extrait aussi, c'est l'idée que Radegonde, et c'est vrai, a été elle est un butin de Clotaire. Elle dit « Tu m'as prise comme... Et tu as fait de moi ton esclave. » Et effectivement, elle est la fille du roi des Thuringiens qui a été vaincu par les Francs. Et Radegonde a été donnée en
oui,
butin.
Mais ce qui vous intéresse, c'est Clotaire. Comment on devient de femme non libre, une femme libre, et comment on le devient dans une structure monastique qu'on contrôle.
Alors,
par libre, la puissance ou l'humilité, il y a
libre, c'est beaucoup dire. Libre, c'est beaucoup dire parce que se retirer au monastère, c'est certes se retirer du circuit matrimonial. Ça, c'est clair. Rares sont quand même les femmes qui arrivent à se retirer au monastère sans être veuve ou sans avoir jamais été mariée. C'est l'un ou l'autre. Radegonde est vraiment un cas tout à fait exceptionnel.
Les veuves voilées et les vierges consacrées. Alors, exactement. Comment s'y passe l'éducation? Allez, dernière séquence du téléfilm de Monnier.
C'est à Matine que le Seigneur entend le mieux notre voix. C'est pourquoi je demanderai à Sœur Le Pauvert, dorénavant, de surveiller plus étroitement ces novices.
La proposition infinitive en latin se caractérise par son verbe toujours à l'infinitif, par son sujet toujours à l'accusatif, et par la concordance des temps obligatoires entre le verbe introducteur et le verbe de la subordonnée. Dico, homerum, secum, fuisse.
Bon, je ne sais pas si on formait vraiment les femmes au latin écrit comme celui-ci. On formait les femmes au chant et à la liturgie. Le latin, d'ailleurs, devient de plus en plus oral. Le latin n'est pas maintenu, il se dégrade.
Le latin se maintient comme langue de communication, c'est-à-dire qu'il est une langue vivante. Nous avons une conception du latin qui est en fait celle des Carolingiens, qui l'ont restauré comme une langue absolument morte, déconnectée de la réalité de la communication. À l'époque mérovingienne, on parle latin, bien sûr, mais c'est plus le latin de Cicéron. Ceci dit, il est probable qu'en Gaule romaine, personne n'a jamais parlé le latin de Cicéron.
Milieu 8e, la coupure carolingien-mérovingien. Les premiers minimisent le rôle des seconds. Une dernière question, Geneviève Burer-Théry. La limite de l'Antiquité et du Moyen-Âge, elle, selon vous?
Selon moi, c'est le 7e siècle qui sert de bascule. Certainement, l'Antiquité n'a pas fini en 476. Elle se poursuit tout au long du 6e siècle. Et c'est en particulier avec le 7e siècle qu'on voit apparaître les premiers traits de ce qui sera le Moyen-Âge, en tout cas la première partie du Moyen-Âge, c'est-à-dire d'une part l'abandon des cités au profit des domaines ruraux, la ruralisation de l'économie, du monde et même des centres de pouvoir. Un roi comme Dagobert, il n'est plus à Paris, il est à Clichy.
Et puis vous voyez d'autres signes, le passage du papyrus au papier, c'est-à-dire du rouleau au livre.
Le passage du papyrus au parchemin, et puis aussi, et ça c'est fondamental, le basculement du centre de gravité de l'Europe, de la Méditerranée vers la mer du Nord. Le Moyen-Âge, c'est le grand moment de la mer du Nord.
Et la fin des monnaies d'or qui étaient frappées du nom de l'empereur. Et ça aussi, c'est la fin du 7e siècle. Merci à vous, Geneviève Burer-Théry, avec Charles Mériot, le tome 1 de la splendide histoire de France chez Belin. En 13 tomes, 12 sont déjà parus. Demain, nous irons 36 quai des Orfèvres, chez le monétaire Éloi et ses successeurs. Franck Olivard, Frédéric Martin, Camille Poux-Jalaguier, Jacques Sigal, l'équipe de préparation et de réalisation, et à la technique Rémi Quincé et Pierrick Monsigny.
Oh, Bebert.